Il est 7h sur France Culture. Avec toujours le nouveau jingle et Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. 2 ans de prison pour une Iranienne qui a osé ôter son voile en public. C'est le message envoyé par Téhéran hier à toutes celles qui s'élèvent depuis des semaines contre la loi islamique. En cette journée internationale des droits des femmes, nous serons aux côtés d'une avocate qui défend toutes celles qui risquent de lourdes peines de prison.
Et nous parlerons aussi du plan de lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes dévoilé hier par le gouvernement, au travail notamment.
Nous irons également en Espagne, grève inédite des femmes contre les inégalités salariales, contre les féminicides et le machisme en général. Le débat hier soir entre les 4 candidats au poste de premier secrétaire du Parti Socialiste, débat suivi par Sophie Delpont, synthèse dans ce journal. Il y a du mieux sur le carnet de santé des entreprises, mais qui sont les zombies qui plombent la productivité? C'est la question que posera Jean-Marc Chardon dans son billet économique à la fin de ce journal.
Et puis la question du jour, Catherine, protectionnisme américain, quelles conséquences sur le marché mondial? Eh bien, on posera la question à Sébastien Jean, économiste directeur du CEPI.
2 ans de prison, dont 3 mois fermes pour s'être dévoilé la tête en public. Une Iranienne a été condamnée hier pour avoir, je cite, « encouragé la corruption morale ». Mais ce n'est pas assez pour le procureur général de Téhéran qui fait appel et demande une peine encore plus lourde. En cette journée internationale des droits des femmes, nous revenons donc ce matin sur le sort de ces Iraniennes qui bravent le régime des mollahs et désobéissent à la loi en vigueur depuis la révolution islamique de 1979. Plus de 35 femmes ont été arrêtées depuis décembre dernier pour avoir osé dénoncer ce port obligatoire du voile. 3 d'entre elles sont représentées par une avocate iranienne, Nasrin Sotoudeh, figure de la défense des droits de l'homme et de la femme. Notre envoyée spéciale Valérie Croval a rencontré à Téhéran.
Au-dessus de son bureau, Nasrin Sotoudeh a fait encadrer des petits messages de soutien envoyés par des enfants quand elle était en prison. La lauréate du prix Sakharov 2012 y est restée pendant 3 ans. Icône de la démocratie en Iran, elle s'est tout de suite reconnue dans le combat de ces jeunes femmes contre le port du voile obligatoire. Elle qui avait posé tête nue sur des photos privées, utilisées par la suite par les autorités.
Ces jeunes filles ont hissé leur foulard au bout d'une perche et les 3 font face à 3 accusations. Apparition en public sans voile, commettant en public un acte prohibé par la religion et encouragement à la corruption.
Ces 3 femmes, dont une est toujours en prison, risquent aujourd'hui une lourde peine. Mais l'ex-bras droit de la prix Nobel de la paix 2003, Shirin Ebadi, voit dans leur mouvement une brèche qui n'est pas prête de se refermer.
Chacune d'entre elles pourrait être condamnée à 10 ans de prison. Mais 10 ans de prison, ça n'arrivera pas à éteindre ce mouvement. Ça peut même contribuer à l'étendre.
Est-ce que vous pensez que ce mouvement a la sympathie de la population?
Oui, beaucoup. Depuis que j'ai accepté de représenter ces filles, il m'arrive souvent dans la rue de rencontrer les gens qui me remercient pour mon travail et me disent qu'ils soutiennent ces filles.
Leur jugement devrait intervenir au mieux dans les 2 prochains mois.
Un reportage en longueur à suivre ce soir dans le journal de 18h et toujours en Iran, qui célèbre sa propre journée de la femme le 9 mars pour célébrer la naissance de Fatima, fille de Mahomet. La justice veut poursuivre les responsables d'une fête organisée par la mairie de Téhéran où des jeunes filles dansent devant un public mixte. En France, à présent, alors qu'Emmanuel Macron a fait de l'égalité femmes-hommes la grande cause de son quinquennat, le gouvernement a présenté hier son plan pour lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes. Les entreprises de plus de 50 salariés présentant des écarts injustifiés de salaire seront sanctionnés à partir de 2022 avec une pénalité financière pouvant aller jusqu'à 1% de leur masse salariale. Autre objectif, multiplier par 4 les contrôles de l'inspection du travail sur l'égalité de salaire homme-femme. Il passerait à 7000 par an pour les entreprises de plus de 250 salariés. Un logiciel également pour identifier les écarts de salaire injustifiés donc entre hommes et femmes au sein d'une même entreprise. Et puis pour prendre le mal à la racine, sensibilisation des plus jeunes avec la mise en place d'un référent égalité dans tous les établissements scolaires. À la rentrée 2019, les principales chaînes de télé qui diffusent des dessins animés pour les enfants pourraient également intégrer dans leur programme un contenu éducatif sur le respect des femmes. Les inégalités salariales entre hommes et femmes à poste et compétences égales, c'est l'une des raisons avancées en Espagne pour inciter les femmes à faire grève aujourd'hui, au travail mais aussi à l'université et à la maison. Une grève inédite pour alerter aussi sur les les féminicides en hausse dans le pays. La correspondance de Mathieu de Taillac.
C'est la toute première fois qu'est convoquée une grève féministe de 24 heures en Espagne. Il y en a déjà eu ailleurs. La référence historique est l'Islande en 1975. Et les Espagnols, l'an passé, se sont essayés à des débrayages. Cette fois-ci, il s'agit de voir plus grand au travail, mais pas seulement. Isabel Cadenas, l'une des porte-paroles de la commission du 8 mars.
C'est une grève au travail, c'est une grève des étudiants, donc à l'éducation. C'est une grève de consommation, donc on n'achète pas ce jour-là. Et c'est surtout une grève de ce qu'on appelle cuidados, alors de tout travail qui n'est pas rémunéré, qui est fait à la maison, comme prendre soin des enfants, des vieux, nettoyer la maison, faire à manger.
Une grève qui n'a pas une revendication centrale, c'est l'ensemble des causes défendues depuis des décennies par la lutte féministe que les organisatrices veulent mettre sur la table.
Vraiment, la situation était une situation d'urgence. En Espagne, l'année passée, 99 femmes ont été assassinées par la violence machiste. On aimerait un salaire de 23%. 80% des personnes qui prennent soin des personnes âgées, c'est des femmes. Et on a une éducation qui est encore très sexiste. Et les femmes, nous avons encore peur quand on rentre à la maison.
Des manifestations sont prévues dans toutes les grandes villes du pays. À Madrid, le cortège est convoqué ce soir à 19h.
Mathieu de Taillac à Madrid pour France Culture. Les anti-avortements ont donné de la voix hier en Argentine au cri de oui à la vie. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté contre une proposition de loi visant à légaliser l'interruption volontaire de grossesse. L'IVG n'est aujourd'hui illégal qu'en cas de viol ou de risque pour la vie de la mère. L'Argentine, où une centaine de femmes meurent chaque année des suites d'avortements clandestins.
7h06 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Ils étaient quatre hier soir à débattre sur le plateau de LCI. Trois cravates bleues, une cravate rouge, quatre candidats au poste de premier secrétaire du Parti Socialiste.
Et presque deux heures de débat en direct entre Olivier Faure, le président du groupe Nouvelle Gauche à l'Assemblée Nationale, l'ancien ministre Stéphane Le Foll, le député du Val-de-Marne Luc Carvounas et l'eurodéputé Emmanuel Morel. Bonjour Sophie Delpont.
Bonjour.
Vous avez suivi ce débat très policé pour France Culture, discussion en grande partie consacrée à la manière dont chacun entend incarner l'opposition face à Emmanuel Macron.
Et tous revendiquent une place d'opposant, mais avec des nuances qui dépassent celles de la couleur des cravates. Stéphane Le Foll, le plus Macron compatible des quatre, souhaite incarner une opposition résolue et intelligente, ce qui n'a pas plu à Emmanuel Morel, le candidat de la gauche du PS. L'ancien ministre de l'Agriculture, tout d'abord, explique son concept.
Donc résolument dans l'opposition. Puis après, il y a des sujets. Et on a suffisamment traité, où on regarde les choses, pas en étant uniquement dans une opposition frontale, systématique, qui fait qu'on est dans l'opposition pour être dans l'opposition. On peut être intelligent.
Donc. Le problème, c'est de chercher des adjectifs. Quand on a la droite en face de nous, on ne s'interroge pas pour savoir si on va être intelligent, réfléchi. On est dans l'opposition. À partir du moment où on est d'accord pour dire que Macron est de droite, eh ben, pas besoin de chercher des adjectifs. On est dans l'opposition, point barre.
Olivier Faure, le chef du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, se situe à peu près entre les deux.
Cette opposition systématique, elle ne mène non plus à rien. Il y a des Français qui aujourd'hui nous regardent et qui ont besoin de comprendre que nous ne sommes pas pavloviens.
Pas pavlovien, c'est-à-dire une opposition somme toute plutôt constructive, si on reprend le concept appliqué par les Républicains à droite. Une subtilité pointée par Luc Carvounas, ancien valsiste qui souhaite incarner maintenant un PS entre Emmanuel Morel et Olivier Faure.
Je suis désolé, mais... Pardon Stéphane et Olivier, la synthèse molle, on a vu où ça nous a emmenés.
Attaque envers François Hollande et il ajoute une autre référence plus surprenante.
C'est comme le disait Martine Aubry, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup.
Martine Aubry citée par un ancien valsiste, comme quoi le changement c'est peut-être maintenant.
Sophie Delpont, merci. Au PS, un débat comme avant, ce sera le thème du billet politique de Frédéric Saïs à 8h16. Stéphane Le Foll sera lui l'invité du journal de midi et demi. Élection des adhérents du PS le 15 et le 29 mars prochain, les 7 et 8 avril lors du congrès d'Aubervilliers. Le nouveau premier secrétaire prendra officiellement ses fonctions, mais pour l'instant donc 4 candidats. Donc,
et sinon aujourd'hui c'est la journée internationale des droits des femmes. On en parlera beaucoup sur France Culture aujourd'hui avec un thème ambitieux. Sommes-nous entrés dans une nouvelle ère ? Dans toutes vos émissions de la Fabrique de l'Histoire à parler temps qui court de Marie Richeux à 21h, vous retrouverez cette thématique sur les droits des femmes.
Emmanuel Macron a promis hier soir une lutte renforcée contre la haine raciste et antisémite qui prospère sur Internet lors du premier dîner sous son quinquennat du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, devant un millier d'invités au Carrousel du Louvre à Paris, dont une quinzaine de ministres et une vingtaine d'ambassadeurs. Le chef de l'État a cité comme exemple inspirant la législation allemande qui menace les plateformes plateforme Internet de lourdes amendes en cas de diffusion de messages de haine. Le Canada et le Mexique peuvent être exemptés de taxes sur l'acier et l'aluminium. Washington a laissé entendre hier que des dérogations seraient possibles alors que le président des États-Unis doit promulguer ses taxes ce soir, 25% sur les importations d'acier et 10% sur celles d'aluminium. Et ce, malgré les mises en garde de l'Union européenne qui voit là une déclaration de guerre commerciale et qui prépare des mesures de rétorsion sur certains types de bourbons ainsi que sur le beurre de cacahuète, les érelles et du jus d'orange produits aux États-Unis. Mais Donald Trump tient, lui, à appliquer son slogan de campagne « America first », l'Amérique d'abord, réduire le déficit commercial des États-Unis et plaire à une partie de sa base électorale, les ouvriers du nord-est du pays, Grégory Phillips.
Ce n'est pas par hasard que Donald Trump signe ce texte sur les importations d'acier et d'aluminium deux jours avant un déplacement à Pittsburgh, Pennsylvanie, pour un meeting au cœur de ce qu'on appelle la Rust Belt, la ceinture de la rouille, toute cette région industrielle située autour des Grands Lacs. Aujourd'hui, les aciéries et les fourneaux américains n'emploient plus que 83 000 ouvriers, 50 000 emplois perdus en moins de 20 ans. Alors évidemment, les syndicats de la sidérurgie applaudissent les mesures protectionnistes que la Maison-Blanche s'apprête à prendre. Léo Gérard était hier soir sur Fox News. Il représente le principal syndicat d'ouvriers sidérurgistes du pays.
L'un des défis pour nous, c'est celui-ci. Non seulement la Chine produit 50% de l'aluminium mondial et 50% de l'acier, mais en plus les Chinois font exprès de la surproduction pour déstabiliser le marché. Et l'un des marchés qu'ils ont attaqué depuis 25 ans de manière particulièrement agressive, c'est le marché américain. Avec le président, on doit donc s'attaquer à eux et leur dire qu'on ne les laissera plus faire.
À la présidentielle, Trump avait largement remporté tous les États de la Rust Belt. Ses ouvriers blancs et souvent déclassés représentent une part importante de son électorat qu'il faut entendre et satisfaire à moins de 8 mois des élections de mi-mandat.
Grégory Phillips à Washington pour France Culture. Protectionnisme américain, quelles conséquences sur le marché mondial? C'est la question du jour que vous poserez, Guillaume Erner, à l'économiste Sébastien Jean, juste après ce journal. Et puis, c'est sans les États-Unis, 11 pays des deux rives du Pacifique vont faire revivre aujourd'hui au Chili l'accord de libre-échange transpacifique donné pour mort il y a un an après donc le retrait des États-Unis. On y revient dans le journal de 7h30.